Stop, c'est parti.
Regardez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello.
Il est 9h39 sur France Inter. Soyez les bienvenus avec un tout petit peu d'avance dans un nouvel Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Michel Denisot a commencé sa carrière à l'ORTF, il tient toujours le plateau. Dans la forme, il fait de plus en plus simple, il revient aux fondamentaux, une image pour servir des hommes et des mots. Comme si la télé redevenait de la radio. Durer, est-ce se débarrasser des oripeaux ou simplement réfléchir à son métier pendant que d'autres réfléchissent simplement aussi aux leurs. Profession, un jour des flics, un autre des cinéastes, des chefs cuisiniers, des ministres ce coup-ci autour de la table, Jean-Pierre Raffarin, Najat Vallaud-Belkacem, François Baroin, Mounir Majoubi, ce qu'ils ont vécu sous les ors de la République. Ce n'est pas la télé qui raconte, c'est eux qui racontent à la télé. La télé, justement, c'est la grande absente de ces destinées déroulées. Elle fut pourtant l'un des principaux leviers.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
C'est en politique, ça s'appelle le principe de la dernière haine. Il y avait une certaine haine de Giscard, giscardien sur Chirac, et Balladur est arrivé, il a capté la haine, ce qui fait que ça adoucit les relations avec Chirac. Et au total...
Giscard avait jeté la rancune à la rivière, comme il avait dit.
Absolument.
Impayable Jean-Pierre Raffarin, Michel Denisot. Comment s'appelait le chien de Jacques Chirac lorsqu'il était maire de Paris?
Du con.
Pourquoi?
Ça, c'est une anecdote qui date de cette époque-là. Donc, un soir, je dînais à la mairie de Paris avec le Jacques Chirac, qui était maire de Paris, et qui a appelé son chien, et il appelle Ducon. Et je dis, mais pourquoi vous l'appelez Ducon? Et il me répond, parce que c'est Giscard qui me l'a offert.
Voilà, Ducon comme Giscard. CN recuite,
non, j'ai pas
CN recuite du petit milieu de la politique. Est-ce qu'elle ressemble au N recuite du petit milieu cathodique?
Je ne sais pas si on peut comparer le monde de la télévision au monde politique. Il y a sûrement des points communs dans les...
Dans les haines tenaces?
Je ne sais pas, moi, ce n'est pas mon fond
dans
de
la
commerce.
Violence.
Mais dans les relations avec les hiérarchies, c'est-à-dire que quand on est animateur d'émissions ou journaliste du 20h ou ailleurs, on est quand même dépendant d'une hiérarchie, comme les ministres sont dépendants d'une hiérarchie. Mmh. Ce qui est dans l'émission qui va passer ce soir, c'est qu'en fait, la difficulté pour un ministre pour exister, c'est à la fois, et pour durer surtout, parce que la durée de vie d'un ministre est entre 18 mois et 2 ans, et c'est à la fois de plaire au président de la République et de ne pas déplaire au Premier ministre.
Ouais.
Et en même temps d'avoir un poil politique suffisant pour que, quand vous prenez la parole, les autres ne vous interrompent pas tout de suite, et avoir donc la maîtrise sur son propre cabinet, ce qui est assez rare.
Je vous fais écouter ce qu'en dit Najat Vallaud-Belkacem.
Vous avez deux possibilités finalement. Vous avez la possibilité de faire de la figuration, et simplement de profiter de l'immense honneur et du plaisir que c'est que d'être ministre en menant assez peu de combats, parce que pour être consensuel et pour le rester dans le temps, il faut mener assez peu de combats. Il faut quand même le dire, parce que j'allais dire, l'impopularité va avec le combat. Hein.
Voilà ce qu'en dit Najat Vallaud-Belkacem, qui a été ministre sous François Hollande. Je me suis demandé si vous, Michel Denisot...
Elle est restée pendant tout le quinquennat.
Ouais. Vous n'êtes pas parmi les plus inoxydables ministres de la télévision. Vous qui avez résisté à tous les présidents de Canal+, tous les présidents de Vivendi, maison mère de Canal+, tous les présidents de la République que vous avez rencontrés et côtoyés.
Oui, j'ai connu le général de Gaulle. J'ai pas connu Napoléon.
Mais... Il n'était pas président de la République.
Mais s'en est fallu peu. Non, j'ai connu le général de Gaulle quand j'ai fait mon service militaire. J'allais à l'Élysée tous les 15 jours pour donner la solde aux soldats qui faisaient leur temps là-bas. Et oui, c'est vrai, j'ai connu les présidents de la République, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Comment vous avez fait pour durer, puisque vous êtes vous-même soumis à cette hiérarchie dont vous parliez?
Oui, mais je me suis libéré souvent des postes que j'occupais, c'est-à-dire que j'ai changé de fonction assez souvent, tous les 4-5 ans je change de fonction. Je fais partie d'aucun mouvement, c'est vrai, d'aucune coterie, je suis assez indépendant, je ne vis pas dans la querelle, j'aime mon métier passionnément, peut-être au-delà du raisonnable, et voilà, donc c'est tout, et quand je sentais qu'il fallait changer, j'ai essayé d'anticiper de temps en temps, et j'ai eu des bons patrons, j'ai eu des patrons moins bons, je ne ramenais pas tous des notes, mais il y en a qui étaient bien, et j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup de bien.
Bonjour Michel Denisot.
Bonjour Sonia De Villers.
Jean-Pierre Raffarin, François Barin, vous sont sur votre plateau ce soir, donc à 22h30 pour Profession Ministre, qui est donc cette collection diffusée sur Canal+ tous les mois. Vous vous êtes réconcilié avec le clan chiracien?
Oh, j'ai jamais été fâché.
Ah si, vous avez été fâché avec le clan chiracien. Vous avez commis un livre avec Nicolas Sarkozy qui avait choisi Balladur.
Ça a été mal vécu.
Ça a été mal vécu. Vous en avez beaucoup voulu.
Non, c'est fini depuis très longtemps. Enfin, je pense.
Alors, à votre avis, ai-je déjà beaucoup trop parlé?
Non, pour l'instant ça va, mais c'est vrai qu'on peut
écouter,
toujours...
Je vous fais écouter, Michel Denisot, votre introduction à l'émission qui sera diffusée ce soir. Dans notre jargon, on appelle ça un lancement.
Bonsoir, profession ministre. Est-ce une profession? En principe, non, c'est une fonction. Jean-Pierre Raffarin, qui est avec nous, qui est un ancien Premier ministre, quand il était enfant, elle écrivait « Profession du père », vous métiez agriculteur et pas ministre.
Exactement.
Je vous fais écouter cette question que vous posez au cours de l'émission à Jean-Pierre Raffarin.
Vous avez composé plusieurs gouvernements. Oui. Et quelle est la règle du jeu?
Bon. Quelle est la règle du jeu? Vous avez toujours eu un côté sphinx, Michel Denisot, mais plus vous vieillissez, moins vous prononcez de mots.
Je pense qu'on en prononce encore trop. Je pense que l'économie de mots, c'est quelque chose qui est devenu un sport pour moi. Et c'est ce qui veut dire, c'est, ça correspond à de la rigueur et à de la précision et à de la pertinence. Donc, on peut toujours faire court. Et on peut y passer sa vie, c'est un travail de moine si on veut. Il y a très très longtemps, j'ai fait les brèves du journal de 20h sous une autre époque, et on peut passer sa vie pour écrire une brève de 2 lignes à partir d'une dépêche de 4 pages. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et je pense dans le monde d'aujourd'hui qui est encore plus rapide, où tout va très vite...
Et bavard en même temps, rapide et très bavard.
Oui, et beaucoup trop bavard, mais rapide. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la rapidité et l'efficacité. Donc après, voilà, c'est une concision.
Alors, Profession, cette émission dont on parle aujourd'hui, ou l'art du dépouillement télévisuel. Je rappelle que vous avez été la tête de pont du Grand Journal, qui a été peut-être l'apogée du grand battage cathodique, public, chroniqueur, séquençage, pastis, sketch, live, déguisement. Voilà. Alors, c'est vrai que vous avez aussi signé Conversation Secrète, qui était une série d'entretiens en tête-à-tête. Et là, il y avait peut-être un dernier gadget, qui était la déambulation, interviewée en marchant. La Profession, décor noir.
Oui.
On a cherché dans l'histoire de la télévision française avec mon équipe, on a trouvé de très vieilles émissions politiques où le public est tellement mal éclairé qu'il en devient marronasse. Mais du noir, noir, on n'en a pas trouvé. On n'en a trouvé que dans des talk shows américains, ouais, façon Charlie Rose.
Exactement. Charlie Rose, qui était une référence pour moi, toujours, sur un fond noir et une table de bois. Et là, c'est un peu quand même un peu plus sophistiqué.
Il y a quelques lumières.
Je trouve que le décor est très élégant et le fond est noir, effectivement. Il y a des lumières.
C'est difficile techniquement, un fond noir?
Non, au contraire, c'est un avantage. Enfin, on pense pas au fond quand on écrit. Enfin, quand on parle, on pense au fond de ce qu'on va dire, mais pas au fond du plateau et du décor. Mais là, cette émission est extrêmement bien produite et conçue. Et on est autour d'une table, c'est inspiré d'une émission américaine qui s'appelle Round the Table, qui est faite par le Hollywood Reporter et qui est consacrée qu'au cinéma aux États-Unis, donc qu'on a adapté avec la boîte de prod Roger Film pour Canal. Et il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de retour d'image sur le plateau. Donc c'est très important, ça paraît un peu comme un détail, mais ça n'en est pas un, parce qu'on a affaire qu'à des gens aguerris qui maîtrisent leur image et qui, de temps en temps, jettent un coup d'œil sur l'écran tout en parlant pour voir si ça va bien. Et là, on ne se voit pas et on ne voit pas les caméras qui sont noyées dans le fond noir. Donc au bout d'un moment, ça instaure un climat de conversation qui est un peu différent du talk show
habituel. Pas de rupture, pas de reportage.
Non,
pas d'archives. Est-ce que c'est de la radio filmée?
Non, je pense que la façon dont c'est réalisé est très esthétique et voir les gens dire quelque chose.
Alors c'est l'essence même du talk show, c'est-à-dire la mise en spectacle de la parole.
Oui, et ben là c'est le cas. C'est-à-dire que c'est de façon la plus radicale, c'est vrai, mais la plus authentique aussi. Il n'y a pas de faux semblants. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de retrouver la plus d'authenticité et de vérité chez les gens que j'interviewe. Et parce que je vous ai dit, la façon dont le décor est fait et la concision aussi du travail qui est le mien pour amener les gens à se livrer et à parler entre eux aussi, ce qui est le but de cette émission.
Alors,
avoir
l'authenticité, vous l'avez dit, vous avez affaire à des gens très très aguerris de la parole médiatique. Est-ce que ça n'est pas au risque de l'entre-soi, ce dispositif? Vous êtes entre vous, rien ne vient jamais les bousculer, vos invités, les heurter, les déranger, les faire dévier, ni dans la construction de l'entretien, ni même dans la composition du plateau. Est-ce que ça n'est pas ça qui risque d'en sortir? principalement quand on reçoit des ministres, avec toujours cette immense question de l'entre-soi politique et de l'entre-soi médiatique,
oui,
co-politique.
Vous avez raison, le but c'est d'éviter ça évidemment, mais le but aussi c'est de réunir des gens qui savent de quoi ils parlent. Et souvent quand on fait intervenir des gens extérieurs dans un débat ou avec des gens qui sont spécialisés, qui ont un vécu extrêmement fort, extrêmement lourd et vrai, c'est des gens qui viennent là pour souvent essayer de briller aux dépens des autres et ne savent pas de quoi ils parlent. C'est très répandu aujourd'hui dans les médias.
Et dans la composition du plateau, est-ce qu'il ne manque pas quelqu'un qui a été terrassé par la fonction ? Une Edith Cresson peut-être, un Jean-Marc Ayrault peut-être, une Françoise Nyssen précédente.
Pour être précis, oui. Edith Cresson devait faire cette émission. Elle a eu la grippe la veille du tournage. Mmh. Et sinon, Edith Cresson aurait été là. Donc vous avez raison.
Parce que c'était la promesse de Macron. Finalement, elle est très actuelle cette émission. C'était la promesse de Macron. C'était la fin des professionnels en politique, les professionnels du marocain, comme on dit. Et puis à croire finalement que ça n'est pas tenable. On a remplacé Françoise Nyssen par un professionnel de la politique française.
Oui. Oui, Mounir Majoubi qui est dans l'émission, quand on l'a enregistré, il était encore au gouvernement, il n'y est plus. Hein. Donc ouais. C'est la preuve, mais je pense que Jean-Pierre Raffarin rappelle dans cette émission que la façon de diriger le pouvoir depuis les Grecs, ça n'a pas vraiment changé. Et que après chacun a son style, le nouveau monde, le monde de demain est toujours le monde nouveau. Mmh. On n'a pas inventé l'eau chaude avec ça.
Et, c'est ce qu'on guette d'ailleurs du début à la fin, puisque vous avez 30 ans de politique. Ouais. Face à vous, Michel Denisot, et encore Baroin et Raffarin puisent dans les pères de la Ve République en continu. Et on se demande ce qui a changé. Et au fond, on comprend bien ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est la place des médias dans la politique, c'est la place de la télévision
c'est ce qu'on évoque
dans la politique.
C'est ce qui est dit, c'est François Baroin qui l'évoque le premier. Il a connu effectivement la politique avec 4 chaînes de télévision, France Info qui démarrait, et Internet qui était une vision de gens qui étaient des bons visionnaires, mais qui n'étaient pas répandus. Donc aujourd'hui, tout a changé. Et c'est vrai que la moitié...
Et s'il y avait eu des archives, c'est ça qu'on aurait vu, finalement. C'est la relation entre la politique et les médias, radicalement différente.
Oui, les politiques passent 50% de leur temps à communiquer aujourd'hui. Donc c'est, je pense, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais je pense que c'est pas la meilleure solution, quoi. On préfère toujours, il y a des politiques qu'on voit du matin au soir sur les chaînes d'infos, qui sont maquillées dès qu'ils sont levés pour passer à la télé et qui ont laqué la mèche. Donc, c'est sûrement un peu trop, mais quoi faire?
Mais quoi faire? Comment un ministre doit-il se situer vis-à-vis de la télé? Qu'est-ce qu'un ministre? Cette année, on a reposé la question de qu'est-ce qu'un ministre, puisque vous la posez ce soir sur Canal+. Est-ce la place d'un ministre un plateau télé? La question, elle a été reposée notamment depuis les Gilets jaunes, lorsque Marlène Schiappa a été annoncée par communiqué du gouvernement en co-animation d'une émission Grand Débat avec Cyril Hanouna. Marlène Schiappa.
Vous voulez faire parler d'un sujet politique, il faut mettre Cyril Hanouna dedans. Je le dis de façon un peu caricaturale, je sais que ce sera repris comme ça. Mais en gros, l'idée, et ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est de prendre des canaux, comme l'émission de Cyril Hanouna, et de mettre mes sujets dans les canaux.
Est-ce la place d'un ministre ?
C'est pas la place de tous les ministres. Ça peut être la place d'un ministre. Mm-hmm. Voilà.
C'est la place de Marlène Schiappa ?
Elle l'a décidé. Je pense qu'elle est brillante. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a réfléchi au sujet. Et ça n'a sûrement pas été inutile pour la communication du gouvernement.
La place des politiques à la télévision, leur fonction sur un plateau de télévision, évidemment, c'est ça qui a profondément changé. C'est quand même assez intéressant et c'est presque une ironie de l'histoire de vous voir, vous, mener cette discussion avec les ministres. Vous, le Grand Journal, vous avez été au cœur de cette transformation-là, Michel Denisot, au cœur vraiment de ce changement de logiciel. On se souvient d'Arnaud Montebourg parlant de Ségolène Royal, candidate à la présidence de la République, sur le plateau du Grand Journal de Canal+, sous vos yeux.
Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon.
Ça me fera toujours rire.
C'est vrai.
Oui. Et puis quand une de mes assistantes l'a raccompagné au parking après, Arnaud Montebourg a dit si ça se trouve, je vais passer au zapping.
Qui a inventé le zapping à la télévision?
C'est moi un lundi matin. Ouais, voilà,
c'est
il y a très longtemps.
Le zapping, c'est vous.
Oui, bah, c'était un lundi.
Et ce grand journal si décisif dans la campagne de 2012, c'est vous.
2007 surtout.
2007.
Je pense. Ouais, c'est 2007 surtout. On a, en fait, quand la campagne a démarré en 2007, on savait pas trop où se positionner. Et puis, il s'est trouvé qu'il y avait des candidats qui étaient à l'époque d'une nouvelle génération, donc Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, qui étaient des gens qui étaient très à l'aise avec la télévision. Avec qui j'ai fait pas mal d'émissions à ce moment-là, avec les autres aussi, bien entendu. Mais ça, c'est à ce moment-là on a trouvé notre place, ouais.
En changeant définitivement le visage cathodique de la politique.
Oui, en l'adaptant à ce qu'on avait envie de faire. Ouais,
Ouais. Dans Profession, ce soir sur Canal+, Jean-Pierre Raffarin dit à quel point il est bon de rendre son tablier. Il est bon notamment de se débarrasser de sa caricature.
Ce qui n'est pas facile dans la vie politique, c'est qu'on vit dans un couple qui est, notamment, vous avez votre vie familiale, mais à côté de ça, vous avez votre caricature. Elle marche à côté de vous, votre caricature. Et puis, et vous la manipulez un peu, votre caricature, parce que vous faites des exercices. Mais les autres aussi la manipulent. Ouais. Elle vous appartient pas complètement. Là, elle marche devant vous, tout ça. Souvent, les gens, ils connaissent plus la caricature que le bonhomme. Et donc, le fait de l'avoir caricaturée, qu'elle ait aussi pris sa retraite, ça repose.
Quelle est la caricature la plus populaire de Jean-Pierre Raffarin?
C'est les raffarinades, la phrase en anglais.
Celle des guignols de l'info, par exemple.
Oui, je pense.
Et les guignols de l'info, c'était dans quelle émission, Michel Denisot?
Ça a été dans beaucoup d'émissions. Ça a été évidemment aussi dans le Grand Journal. Oui, pendant
toute la période. Et ça a été dans le Grand Journal, dans la période dans laquelle vous étiez. Donc c'est quand même assez intéressant de se débarrasser finalement du miroir et des archives et de réunir quatre anciens ministres parce que vous faites partie de leur vie intimement. Vous, les émissions que vous avez pilotées, vous, la télévision finalement que vous avez façonnée. Totalement.
C'est partie de cette histoire-là. J'ai pas façonné la télévision. J'ai fait partie des maçons qui ont façonné une partie de la télévision à une époque qui se termine maintenant. Voilà, c'est tout.
Vous avez d'ailleurs fait votre apprentissage politique en parallèle d'un certain Jacques Chirac qui lui a fait son apprentissage médiatique. Ça a commencé en 1969. Vous étiez journaliste à Limoges. Lui, il est secrétaire d'État à l'agriculture. Vous rêvez d'un destin parisien. Lui, il rêve d'un destin national. Et entre le micro, votre micro de journaliste, et Jacques Chirac, ça va pas du tout.
Ah oui, il y a eu des... Je sais pas à quoi vous faites référence.
Des choses que vous racontez dans vos brèves de vie, parce que vous les avez tous côtoyés, finalement. Ces hommes de pouvoir. Et vous avez aimé ça, les côtoyer.
Oui, oui, bah, je suis curieux. Mon métier, c'est curieux. Je le définis comme ça, autant que journaliste, qui est la même chose. Et j'essaye plus d'être pertinent qu'impertinent. Pour moi, l'impertinence, c'est pour les humoristes. Et la pertinence, c'est pour les journalistes. Et donc, j'ai essayé de... Oui, j'ai eu la chance. Quand je vois aujourd'hui le nombre de personnalités que j'ai pu rencontrer par mon métier, c'est assez impressionnant. Et... Dans tous les domaines. Bon, là, on parle de politique, mais c'est vrai dans beaucoup de secteurs aussi. Et peu à peu, bah, avec le temps, j'apprends à bien régler la distance par rapport à tout ça, quoi. Ouais.
À quand un profession journaliste politique? À quand Duhamel, Chabot, Sinclair, Pujadas, Salamé autour d'un plateau? Parce que tout a changé.
Oui.
Puisque vous faites parler les ministres.
Oui, c'est un peu.
Il faudrait faire parler ceux qui les ont fait parler.
Je suis en train de je suis dans le montage d'un film que j'ai tourné.
Oui, un film de cinéma.
Un film de cinéma, oui, qui sortira au mois de novembre, qui est l'histoire d'un présentateur du 20h justement, et qui est un peu aussi l'histoire de la fin d'une
époque,
d'une bascule en tout cas. Oui, c'est pas la fin des haricots ni d'une époque, mais c'est une bascule effectivement où le poids de la télévision est plus le même, et donc ça a vraiment changé.
Ça a vraiment changé. Il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le PSG, Michel Denisot, ce club, votre club chéri que vous avez présidé, qui a encore été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions? Qu'est-ce qu'il a, ce club? C'est quoi le problème du club?
Pour savoir ce qu'il faut faire, il faut être à l'intérieur. J'y suis pas.
Mais non. Vous êtes partout.
Non, je suis
pas. Vous feriez quoi?
Je vais même pas au match.
Vous feriez quoi pour le PSG aujourd'hui?
Alors, j'ai le numéro d'un marabout.
Voilà, alors racontez-nous le numéro de Berberdou, parce que vous l'avez déjà utilisé.
Ah oui, j'ai utilisé un marabout. Quand j'étais président du PSG, on avait perdu un match sur tapis vert en Coupe d'Europe à Bucarest.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'on avait fait jouer un joueur qui était suspendu sans le savoir, évidemment, sinon on ne l'aurait pas fait. Oui. Nos adversaires ne le savaient pas non plus. Et ça arrive à l'UEFA, ils disent, mais lui, il était suspendu. Ah bon, alors donc on perd 3-0, et match retour très difficile, tout le monde rigole de nous, à juste titre. Et là, je reçois des ça m'arrive par un membre de mon équipe, dit ah, il y a des qui avaient travaillé en Afrique, il y a des marabouts qui m'appellent. Je dis écoute, moi je prends tout là dans la situation. S'il faut un camion de cierge à Lourdes, je fais tout ce qui est légal, je fais. Et donc j'ai appelé le marabout qui s'appelle Sidi, et puis on a discuté, et puis j'ai découvert Western Union pour lui envoyer de l'argent, et c'était pas très cher. Hein. Et puis il pouvait pas, ça marchait pas. Et puis 3 jours avant le match, il m'a dit je pense que ça va aller. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne vais pas entrer dans les détails. Et puis, il m'a annoncé le score la veille. Voilà.
Et
ça s'est passé comme il avait dit. Et on s'est qualifié contre Bucarest.
Merci beaucoup, Michel Denisot. Profession ministre, Canal+, 22h30. Ce soir, Michel Denisot, en très très peu de mots, je vous préviens.